11h01. Salut, bon matin, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom c'est Marceau, je t'accompagne jusqu'à 14h en compagnie de mon fidèle destrier, Pascal CV en remplacement d'Audrey qui a le pèteux dans le sud actuellement.
Ben oui, elle se fait bronzer. Ouais. Hey, fidèle destrier, semble-t-il que destrier c'est effectivement juste masculin et c'est un cheval.
Je suis un spécialiste de la langue française, je te l'ai dit.
Oui, mais si t'étais vraiment spécialiste de la langue française, est-ce que tu m'appellerais vraiment mon étalon?
Des petits mots, je te dis, quand on n'est pas en onde, t'es pas obligé de répéter ça au monde.
Viens ici, mon bel étalon.
J'ai mon bel étalon, je suis pas sûr.
C'est Elvis Gratton, là, qui
est... Ça serait son genre.
Je parle à la jeune étudiante.
Viens ici, mon bel étalon. Tu sais, moi, dans le truck en arrière, un petit bar, un litre, on pourrait être bien.
Oui, tu te fais un petit 20 piastres facile. Mon gros écœur. C'est tout des agaces.
C'est ça, maudit agace. Va-t'en! Toi, tu dois être lesbienne!
Là, c'est un film en passant. Là, ça va très bien.
Mais j'adore Elvis Gratton. On est dans la
caricature. La caricature. Et le mot que tu cherches.
Puis, tu sais, hier, je regardais. je veux pas stresser personne avec ça. Moi, Donald Trump, j'en ai rien à battre. Là. Je trouve le personnage intriguant. On sait jamais si on peut le croire ou pas. C'est un homme d'affaires qui a effectivement trahi énormément de gens, qui a fait de l'argent sur le dos des gens, mais n'en demeure pas moins qu'il est devenu multimillionnaire. Il est devenu par deux fois président des États-Unis. C'est un personnage.
Ben, c'est un agresseur aussi, puis, moi, je préfère le dire.
Oui, mais tu sais, de voir hier qu'il est en train de dire en conférence de presse, ben on va prendre Gaza, là, on va raser tout ça. Toutes les Gazaouis, on va les envoyer des autres pays comme en Égypte, en Jordanie, alors qu'ils veulent rien savoir d'avoir les Palestiniens là-bas. Puis on va faire un beau... comment il a dit ça? Il a pas dit un resort. Une belle Côte d'Azur 2.0.
J'ai vraiment de la misère, moi, je trouve ça. Non, c'est... Yannick, tu sais qu'il y a eu des atrocités, des gens qui ont été des chars à canon. C'est une guerre qui a été provoquée par le politique aussi en partie. Ouais. J'arrive pas. Mais j'aimerais ça être capable de désamorcer là, avec un idiot là. Là, caricatural comme c'est ça que t'exposes.
C'est juste épouvantable.
Je sais que c'est ça que t'exposes.
Et lui, je pense que dans sa tête, il veut juste envoyer. Puis là, tu sais, j'interprète, là, ça veut pas dire que j'ai raison. Là.
Ah oui?
Pascal croit que j'ai jamais raison.
Pas mais, souvent!
Mais si je gageais 2$ à chaque fois, je serais riche avec Pascal.
Arc! Pour qui tu
mais j'ai l'impression qu'il veut juste envoyer un message au Hamas, mais sur le dos des pauvres Palestiniens. C'est-à-dire que si vous continuez, parce que là, actuellement, il y a comme un temps de paix, là, puis là, de plus en plus de Palestiniens tendent à revenir vers la Palestine alors qu'ils s'étaient sauvés de la guerre qui faisait rage dans leur pays. La Palestine est détruite. La bande de Gaza est détruite de A jusqu'à Z, mais de plus en plus, il y a des gens qui reviennent pour tenter de rebâtir. J'ai l'impression que Donald Trump a dit cette absurdité-là hier juste pour envoyer un message au Hamas, qui est un groupe terroriste, soit dit en passant. C'est « si vous continuez, on va vous raser, puis on va faire un beau resort américain, là. » Mais c'est lourd de sens, Pascal, parce que c'est le président des États-Unis, la plus grande démocratie au monde. C'est le capitaine Liberté qui s'en va dire ça. Puis là, ben, t'as des Gazaouis qui disent, attends un peu, là, ça, c'est notre terre à nous autres. On se fera pas voler ça par les Américains.
Déjà, qui ont été violentés. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment de la misère. Puis j'ai souvent, là, la capacité de faire, mettons, des jokes avec le drame, c'est prouvé là, en psychologie, là, une façon de dédramatiser puis de prendre les choses avec un petit peu moins de torpeur. Mais ce gars-là, là, je suis vraiment désolée, mais je laissais le bénéfice du doute jusqu'à maintenant. Je vais aller dans le même sens qu'un auditeur, il abuse des faibles pour en tirer profit, puis ça, c'est pas digne d'un leader. Je trouve ça très difficile. Pour moi, c'est même pas un businessman. Là. Il a fait faillite avec un casino. Là. Trump, c'est quoi Trump pour moi? Une machine de marketing.
Ouais, exact.
Je le trouve extrêmement brillant en marketing. C'est probablement une des personnes qui maîtrise le mieux le marketing sur la planète. Le hic étant, il s'en sert pas à bon escient. T'as-tu vraiment publié ça, Yannick?
Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est une photo ou une vidéo?
Moi, je ne peux pas présumer que ce gars-là n'est pas bon en affaires. Je pense qu'il a réussi en affaires. Ça va relativement bien, ses trucs.
Ben oui, avec quel argent? Celui de sa famille au départ?
Devenir président des États-Unis une fois, c'est bien. Devenir une fois, deux fois président des États-Unis, c'est quelque chose. Puis il a réussi à le faire. Mais
c'est le marketing.
Le deuxième ça, j'en degré, pas. Le deuxième degré quand t'es... parce que j'ai l'impression que c'était comme un deuxième degré, c'est-à-dire si le Hamas continue à faire suer la planète, on va être là pour vous éradiquer. Je suis pas sûr que que le deuxième degré, tu dois l'appliquer quand tu es président des États-Unis ou encore quand tu es premier ministre du Canada.
Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est la phrase la plus sensée que tu as dite depuis le début de l'émission. Puis je dirais même, bah, je suis pas sûre, tu ne dois pas. Est-ce que toi et moi, on peut s'entendre là-dessus?
Je me sens dénigré constamment.
Par qui? Par moi?
Ah oui.
Je viens de dire que ta phrase, c'est celle-là qui fait du sens.
Ma confiance en moi diminue de jour en jour.
Ça paraît, je te vois tellement affaibli. Là. Oui. Ça fait un an, le pauvre petit, il rampe à terre.
Je peux-tu savoir pourquoi tu faisais un service de bord ce matin chez Leclerc Communication? Parce que moi, je suis arrivé, j'étais vraiment dans le jus. J'ai préparé l'émission au complet. À quelques petites exceptions près, là, j'ai préparé mes entrevues. Puis là, j'arrive ici, Pascal ne me répond pas. Je la cherche partout dans la station. Oh. Puis je la trouve au bar avec des drinks alcoolisés, avec un shaker qui est en train de shaker. Fait que j'ai immortalisé ça. Je l'ai mis sur ma page
Facebook. C'est vraiment ma meilleure photo hein, quand je la regarde. Là.
Et j'ai regardé l'heure, 9h58, puis Pascal boit de l'alcool.
Oui, mais je n'ai pas trop bu. Là. On a fait pas mal plus de mocktails pour être capable d'enfiler les deux émissions là, qu'on fait ensemble. C'est Remélange, vous le connaissez, il fait tout le temps des chroniques avec le retour.
Remélange?
Non, pas.
C'est un drôle de nom de famille.
Heureux
Mélange.
Sérieux? T'es vraiment épais.
Mais je suis à jeun, moi.
Moi, je suis presque à jeun. Heureux mélange.
Oui.
OK? Parce que jeudi, je sais pas pourquoi on m'a recruté pour deux événements où il y a de l'alcool. Là. J'ai eu envie de faire du déni volontaire, pas me poser de questions. Mais jeudi, je m'en vais à Bulle et Whisky. Ça, c'est un événement à Québec vraiment, vraiment le fun. Et j'affronte. Initialement, j'affrontais Nathan, mais quand il a su que c'était moi qui affrontais, il a cancellé sa participation. On va être sur une scène, puis on doit créer un cocktail de A à Z, sans nécessairement avoir de l'aide, là, puis on est deux néophytes. Nous autres, on est très bons, Nathan et moi, pour en boire, mais côté le faire, le shaker, il tient pas. Tu sais, moi, j'ai fait exploser le shaker au moins trois fois, Nathan, t'étais pas là, puis j'étais bien contente que tu vois pas la scène, puisque j'aurais été morte pour le restant de mes jours, t'aurais ri de tout ça. Mais là, Nathan, c'est ça, canceller sa participation. Et là, Jeff Fortin, en gaillard, c'est du moins mal l'affronter CV. Fait qu'on avait une petite formation de cocktail ce matin pour être prête pour jeudi. Et mardi prochain, c'est à l'atelier, c'est le Mardi Gras auquel tu as déjà participé. T'étais habillé en genre de viking.
J'ai fait ça là qui a marché le plus. Là. Mais,
t'avais-tu gagné cette année-là?
J'avais pas gagné.
C'était encore en fait, Martin, je gage.
Le drink était, je me souviens pas qui avait gagné à ce moment-là, mais le drink qu'on faisait était très cool, mais il était très long à faire. Puis il y avait beaucoup de fruits qui étaient avec ça. Fait que maintenant, on a manqué de stock. Là. Je pense que j'ai été boycotté là, pendant la soirée parce que ça marchait beaucoup trop bien.
As-tu l'impression qu'on t'a pris pour être la potiche, mettons? Hey, Yann, mais toi, t'as
fait. J'ai rien fait. Ils m'ont donné un casque de poêle. Ils m'ont donné un manteau de poêle. Il fallait que je sois en string en dessous de ça.
Ah, c'est comme nous autres quand tu arrives avec toutes les feuilles de l'émission maintenant.
J'avais beaucoup trop de gens un peu weird autour de moi, mais ça a été relativement une belle soirée. Puis oui, mardi, je vais aller faire un tour pour te voir à l'atelier. Ben oui, je te laisserai pas tout seul au travers de cette meute de loups. Un lapin. T'as besoin de grands défenseurs.
Ben là, c'est sûr qu'on veut. Si la fraise se présente, j'aimerais bien avoir des renforts. Mais si vous étiez là la semaine passée à l'émission, vous savez de quoi on parle avec. Ben en fait, dans le pit stop avec Denis. Mais ça va vraiment être le fun. L'atelier Mardi Gras, là, ça fait 5 ans que ça existe. C'est plein de gens des médias qui s'affrontent à faire un cocktail à l'aide d'un mixologue sur place. Puis on n'a pas vraiment un droit de regard sur le drink, oui et non. Fait que moi, j'ai su notre thématique hier. La seule chose auquel j'ai pensé, c'est comment je vais m'habiller. J'ai vraiment pensé en fille. C'est après ça.
Moi, c'est la barmaid qui était avec moi qui m'a habillée.
C'est pour ça qu'elle t'a mis un string.
Oui, exact.
Mais elle n'a pas pensé aux autres.
Non.
T'sais, elle, peut-être qu'elle aimait beaucoup. Peut-être qu'elle voyait ça comme quelque chose de goulûment intéressant, mais elle n'a pas pensé à tes collègues qui pouvaient saigner des yeux.
C'était goulûment intéressant.
Mais ça, c'est mardi. En passant, il reste des billets. Si vous voulez aller sur ma page Facebook, il y a un petit lien.
Oui, c'est une belle occasion pour nous autres de rencontrer les auditeurs qui vont se pointer. Fait que oui, je vais être là. Je te garantis pas, je vais partir de là à 3h du matin. Là.
Mais je suis contente que tu viennes.
Parce que je suis un père de famille, moi. Hein? J'ai des responsabilités. Fait que,
j'ai la responsabilité de toi chaque jour.
C'est clair que je vais y aller. Simon dit, salut gang, j'ai une petite question. Okay. J'ai un voyage à New York au mois de mai. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais y aller ou pas avec tout ce qui se passe avec Trump? Tu sais, Simon, moi, là, je donne jamais de conseils à personne. Okay? Ce que j'aime, moi...
Parce qu'on n'est pas mieux que personne.
Exact. Ce que j'aime, moi, dans mon entourage, c'est des gens qui sont très bien axés sur leurs valeurs fondamentales. Mm-hmm. OK? Moi, les miennes, c'est... mon premier ministre du Canada ne me représente pas. Je serais un peu en maudit si un Américain disait « Moi, je ne vais pas faire un tour au tournoi international de hockey Pee-wee avec mon enfant parce que je déteste Justin Trudeau. » Fait que La même chose, moi, de mon côté, je déteste pas les Floridiens, mais ça se peut qu'à un moment donné, j'aille en Floride, même si je suis pas trop en accord, exemple, avec ce que Donald Trump a fait hier avec la bande de Gaza. Tu comprends?
Oui, absolument.
C'est pas les Américains qui sont responsables de ça, c'est pas les Canadiens qui sont responsables de Justin Trudeau. Fait que moi, j'irais pareil. Mais je te laisse, Simon, dealer avec toi-même. Là.
Oui, mais tu sais, il y a quelque chose aussi, là. Admettons que lui est contre, je sais pas moi, le courant républicain qui appuie Trump, qui en passant est divisé à l'intérieur de lui-même. Tu sais, New York, ça reste un État démocrate, là, si jamais ce sont ses valeurs politiques. Puis j'ai un peu de la misère avec ça aussi, dans le sens où je ne jugerais pas, moi, Simon, son voyage est prévu. Les gens qui vont aller aux États-Unis, quand même, je ne les juge pas. Notre collègue Nathan le dit haut et fort. Lui, il avait des vacances dans le Maine annuel. Il n'ira pas cette année. C'est difficile.
Chacun gère sa fougère.
Puis tu sais, si tu n'as pas déjà booké ton voyage, moi, j'allais voir un de mes amis à New York aussi. Je suis mitigée. Mais je pense que je vais y aller quand même parce qu'il est là pas longtemps. Il étudie dans une université là-bas. Puis là, je regardais... Est-ce que c'est un État démocrate ou républicain? Mais en même temps, est-ce que je vais faire la différence? Pas tant. Par contre, j'encourage assidûment et encore plus maintenant Canadiens et Québécois. C'était dans mes valeurs familiales. Là, moi, ça a été inculqué vite.
Ouais.
Et là, c'est vraiment encore plus prioritaire. Puis ça, je ne lésinerai pas là-dessus. Mais Denis, là, qui en parlait, lui aimerait ça. Mais son budget, il ne permet pas, avec les enfants monoparentales non plus, de juste faire des choix qui vont canadiens ou québécois selon le prix. Tu sais, c'est dur, là.
Je ne sais pas, les auditeurs, comment vous percevez ça, cette
situation-là?
C'est une très bonne question. 418-971-1021, tu sais, est-ce que vous allez vous priver d'aller voir les Américains ou d'aller aux États-Unis parce que vous n'êtes pas en accord avec ce Donald Trump? Mais moi, je vous le dis très clairement, là, je ne priverai pas les Américains de mon argent parce que je suis pas toujours d'accord avec Donald Trump. En rien. Okay. Moi, j'ai toujours encouragé l'économie locale. Depuis que je fais de la radio, quand j'étais à Saint-Georges-de-Beauce en 2006, j'encourageais l'économie locale. Oui, il y a de belles choses à Québec, mais si vous pouvez acheter des trucs à Saint-Georges pour les agriculteurs du coin, ça fait bien. Au lieu d'acheter des œufs que tu vas acheter chez Métro à Saint-Georges-de-Beauce, mettons, je sais pas s'il y a un métro à Saint-Georges-de-Beauce, il y a des producteurs locaux qui peuvent t'en donner des œufs frais. Fait, j'ai toujours fait ça.
Ils fournissent certaines épiceries aussi Nutrinor, entre autres, là, mettons le lait, là, t'encourages automatiquement des gens qui travaillent dans tout ce qui est industrie laitière au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Moi, je ne change rien à mes habitudes. C'est juste que je vais peut-être le glisser un peu plus dans mes propos en ondes. Oui, Amazon, là, ça peut être bien le fun, mais aller aux Galeries de la Capitale, voir le monde, jaser avec les gens qui travaillent chez nous, qui sont là pour vendre des produits d'ici.
Qui payent des taxes, des impôts ici.
Qui ont des jobs ici. Ça va être peut-être un peu plus dans mon discours, mais j'ai l'impression, Pascal, puis on en parlera peut-être avec Joël Monzé tantôt, qui va être avec nous. Joël, c'est un docteur en neurosciences. Il va nous apprendre à gérer notre stress face à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais j'ai l'impression de revivre la maudite pandémie, les gens qui se déchiraient pour leur opinion, pour leurs valeurs et tout ça. Des familles qui se sont séparées.
Je sens plus pacifique.
Des parents qui ont complètement abandonné leurs enfants parce que les enfants disaient... Tu sais, maman, tu peux quand même sortir. Puis maman était terrorisée parce qu'elle écoutait juste TVA ou elle écoutait juste RDI. Puis RDI disait aux personnes âgées, vous allez toutes crever si vous sortez dehors. Il y a des familles qui se sont déchirées, puis j'ai l'impression de revivre ça.
Sais-tu quoi? Moi, j'ai même pas envie de parler de ce parallèle-là, même si je comprends pourquoi tu le fais, parce que, je veux pas être là. Fait que le moins que j'en parle de cette corrélation-là, le moins qu'on l'expose, mais je pense qu'il est plus pacifique quand même, le courant. C'est de l'entraide, je vois à l'épicerie, tu sais, c'est moins la peur de l'autre, la peur du microbe de l'autre, la peur de pas respecter les règles, la peur de... Je le vois plus côté ralliement que division actuellement. Ce qui divise, par contre, c'est l'opinion face à Trump. Ça, c'est sûr. Nous, on expose des choses, on expose notre opinion. Est-ce que c'est le nôtre, est-ce que c'est pas le nôtre? On est d'accord avec ses valeurs économiques ou pas, avec son parcours? Puis déjà... Même des auditeurs qui nous écoutent depuis des années, des fois, ça leur frise l'oreille. Il y a quelque chose qui passe pas. Je souhaite un discours beaucoup plus ouvert face à ça. Il y a quelqu'un même qui a répondu à notre autre auditeur qui disait, je suis supposé aller à New York, est-ce que j'y vais? Qui dit, en tout cas, nous, notre famille, on était supposé aller à Philadelphie cet été, mais on a annulé. Mon argent, personnellement, va rester au Québec. J'aime ça quand c'est bien fait comme ça, que c'est un débat.
Parce que ces gens-là sont ancrés sur leurs valeurs. Mm-hmm. Moi, je vais toujours respecter ça, même si des fois, ça va, pas dans ce cas-ci, mais ça va à l'encontre de mes valeurs à moi. Tu gères ta fougère, tu gères ce qui te concerne, puis tu ne juges pas les autres qui, eux autres, ont peut-être d'autres valeurs qui sont différentes des tiennes. Ça veut-tu dire qu'ils sont meilleurs? Ça veut-tu dire qu'ils sont, sont pires? Non, c'est juste qu'eux autres, ils ont d'autres valeurs. Ils ont été élevés d'une façon différente, puis ils se disent, ben moi, j'avais prévu mon voyage à Walt Disney avec mes enfants. Je leur avais promis, puis ça fait des années qu'on met de l'argent de côté. Je vais y aller quand même si je ne suis pas d'accord avec le président des États-Unis, au même titre que les Américains ne sont peut-être pas toujours d'accord avec Justin Trudeau, quand Justin Trudeau prend des décisions qui n'ont pas de maudit bon sens, tu sais. Mais les gens qui se déchirent, je trouve ça particulier. Puis cette semaine, tu sais...
C'est pas mal qu'on va avancer en passant.
La plupart des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux ne savent pas vraiment de quel bord je tire, tu sais. Moi, Trump, je trouve que c'est un personnage intéressant parce qu'il laisse personne indifférent. Les gens, soit qu'ils l'aiment beaucoup ou soit qu'ils le détestent foncièrement. Puis quand je mets des trucs sur Donald Trump, je laisse tout le temps ça assez vague. Ce qui fait en sorte que d'un bord comme de l'autre, des fois, les gens se permettent de m'insulter en disant « Hey, c'est quoi Trump, là? C'est un homme d'affaires, là, c'est quand même respectable ce qu'il a fait. » Puis de l'autre côté, c'est « Quoi? T'endoses Donald Trump? » Des fois, c'est dans le même post, Pascal. Puis je trouve ça formidable. Mais en même temps, je trouve ça triste. Parce que les gens sont plus capables d'être dans le centre. Ils sont plus capables de se jaser. C'est que soit d'un bord ou soit de l'autre, exactement comme dans le temps de la pandémie.
Il fait tellement de dommages. En tout cas, pour moi, il y a plus de dommages. Je le répète, pour moi...
Parce que tu es canadienne.
Ses actions ont plus de dommages. Puis même au sein de son pays, il a divisé, c'est effroyable. Il a divisé le Parti républicain. Mais tu sais, là, en
tant que États-Unis ont voté pour lui.
Je répète à dire que, oui, mais je veux dire, dans le contexte, Yannick, là, je veux dire, c'est nous autres, c'est tough aussi. On est un peu orphelin politique, autant au provincial qu'au fédéral. Il va y avoir une majorité qui va voter pour un parti. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être enclins à endosser absolument tout ce qui se fait par du parti ou le chef de ce parti-là. Pour Donald Trump, j'ai bien de la peine juste parce que je me demande où est-ce qu'ils sont nos leaders qui sont capables de rassembler. C'est toujours ma ligne. C'est les dommages qu'il applique, pour moi, sont majoritaires face aux bénéfices. Je peux pas nier que c'est une machine de marketing. J'admire la façon dont il est capable de faire du marketing personnel puis autour de lui. Par contre, je déplore la manière dont il l'applique. N'importe quelle personne, si tu as des qualités là, personnelles, ça va toujours dépendre de comment tu vas en user. Puis c'est une opinion qui est vraiment personnelle à Pascal, là, Pascal CV. Après, je pourrais avoir des débats.
Tu parles à la troisième personne?
Non, mais c'est parce que je veux pas que quelqu'un pense que je veux aller jouer dans la tête du monde ou autre. C'est des observations que moi, j'ai.
L'open mic, ça sert à ça. Ça sert à être humain. Puis de se poser des questions. Moi, ce que je déteste, c'est les gens qui sont dans les extrêmes d'un bord comme de l'autre.
C'est parce qu'on s'écoute plus après.
Je me rends compte qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui sont vraiment des extrêmes, puis j'avais comme pas réalisé ça.
Mais moi, il a dépassé mes valeurs personnelles. Il a dépassé mes limites personnelles.
Tu sais, exemple, tantôt, tu me dis...
Je serais pas authentique de le pas
dire. Yann, j'ai regardé l'état dans lequel où mon ami était, à savoir si c'était républicain ou quoi. Tu sais, moi, là, je veux dire...
Tu me reconnais là-dedans.
Oui, mais je suis tellement pas là-dedans, tu sais.
Est-ce que je te juge? Non. Est-ce que je discute avec toi, par exemple? Oui. Je pense que c'est ça que je souhaite à tout le monde là-dedans.
Mais le point n'est pas là. C'est qu'il y a des gens qui sont dans les extrêmes puis sont plus capables de discuter avec l'autre côté. Puis ils vont jusqu'à rejeter ces gens-là, alors que ces gens-là ont peut-être leur mot à dire. Ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison.
C'est dans les deux cas, en
passant. Mais c'est le centre, exact. C'est le centre qui est important. Puis il faut continuer de discuter de ces sujets-là.
C'est le centre ou l'ouverture... À l'autre.
Le centre, parce que...
Toi, tu le vois en échiquier politique?
Moi, j'ai pas de... À part au sens économique, là, puis je t'attrais de te convertir à ça.
Non.
Je suis de droite économique. Mais parfois, j'ai des idées à gauche. Parfois, j'ai des idées à droite. Je suis un gars qui est progressiste dans la vie. J'aime le progrès. J'aime ça qu'on se dise, OK, ben tu sais, dans le temps, en 1930, le droit des femmes, là, ben ça n'a pas de crise de bon sens, puis heureusement qu'il y a eu du progrès. Puis à un moment donné, il y a des suffragettes qui se sont battues, puis ils ont obtenu le droit de vote. Tu sais, moi, ça, c'est du progrès. Je suis pour le progrès. Puis je pense qu'on fait peut-être fausse route actuellement ou on fait une bonne route, mais il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Mais quand on est dans les extrêmes constamment, les gens font juste se détester, puis ils font rien, absolument rien, sauf critiquer.
L'affaire avec Trump, c'est qu'il est quand même extrême dans ses positions. Même s'il bluffe, il amène derrière lui des gens qui ont besoin de se rallier à quelque chose parce qu'ils se sentent perdus, parce qu'ils ont des besoins. Puis là, c'est pas juste Trump. C'est constamment ça en politique. On le voit avec Legault, on le voit avec n'importe quel parti, que ce soit de gauche ou de droite. C'est des gens qui cherchent une essence dans leur façon de voir les choses, d'analyser le quotidien. C'est humain de chercher un sens à notre vie, à nos réflexions. Et quand on a peut-être un genre de fond d'ignorance sur certaines choses, on va se rallier. Puis dans les extrêmes, ce que je trouve difficile, c'est quand c'est bloqué, puis que même si, mettons, moi, j'étais de droite, là, bien, ce que j'haïs en politique, c'est droite-gauche, situez-vous sur la ligne, ça m'écœure, parce qu'au départ, ça devrait juste être un horizon pour essayer de t'aider à voter selon ce que toi, au quotidien, t'aimerais que soit appliqué en termes de politique dans ta vie, là, puis selon, bon, les filets sociaux et autres, mais je déteste cette ligne politique-là, de bleu, de rouge, je la déteste parce qu'elle t'amène dans un créneau, puis tranquillement, pas vite, si jamais tu tiens pas à jour dans tes propres opinions ou encore tu ne challenges pas personnel, elle te cristallise dans un créneau et tu ne réfléchis plus.
C'est l'algorithme humain.
Et ça, c'est la fragilité de l'humain aussi. Là.
Tu t'entoures des gens qui pensent comme toi, puis à un moment donné, tu te renforcis là-dedans.
Cette façon-là d'être cristallisé fait en sorte qu'après, tu te challenges pas, tu te tiens pas avec les gens qui te challengent et tu arrives à croire des choses que tu n'aurais jamais cru si jamais tu t'étais pas cristallisé. Je te donne un exemple. Si moi, j'étais peinte, par exemple, on va y aller, là, moi, Québec solidaire, OK? Ça, c'est moi, là, OK? Puis là, tout le monde m'haït, mettons, ici, là, toi, dans le studio. Tout le monde est en toi. Je l'haïs, c'est une Québec solidaire. Moi, je suis là, ouais. Je donnerais de l'argent aux enfants malades de cette personne-là, peut-être, qu'elle m'haïrait pareil. Mm-hmm. Elle trouverait rien de bon en moi. Puis là, j'y vais avec l'extrême, là, dans mon application d'un exemple, là. Elle m'haïrait parce que je donnerais de l'argent pour ces enfants malades qui ont besoin d'un traitement expérimental parce que ça s'est cristallisé dans les deux bords. Et ça, c'est notre plus grand ennemi en termes de société parce qu'après, on ne réfléchit plus ensemble. Et c'est exactement ce que les leaders de politique, côté, mettons, marketing, souhaitent. Qu'on ne réfléchisse plus collectivement, qu'on ne mélange plus les gens sur l'échiquier politique et qu'on adhère absolument tout ce qu'ils disent d'une manière à ne plus réfléchir. Ils ont gagné.
Joël Monzé sera avec nous tantôt. Il est docteur en neurosciences. Puis il va nous apprendre à gérer le stress face aux nouvelles qui parcourent la planète. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. À la mer Athéo, c'est moins 19 degrés. Avec le refroidissement éolien, Pascal, c'est un moins 29 comme température ressentie actuellement. Généralement ensoleillé pour aujourd'hui. La neige, c'est terminé!
Terminé. Déjà.
Les gars.
C'est quand la prochaine fois?
Les gars de neige, là. Dans les 3-4 derniers jours, là, doivent être contents d'avoir une journée de répit. On vous salue, mais j'imagine qu'ils sont couchés à cette heure-là parce qu'ils ont travaillé toute la nuit. Donc, un maximum de moins 13 qu'on nous mentionne. Pour ce qui est de jeudi, ce sera de la neige qui devrait débuter en après-midi. Un 5 cm annoncé, maximum de moins 8. Vendredi, une alternance soleil-nuage avec un maximum de moins 2. Samedi, ensoleillé, maximum de moins 8. Et dimanche, ce sera de la neige intermittente, maximum de moins 8 degrés. 10h23, on s'en va avec Kamakazi. Comptez les secondes sur les ondes de Boulevard, et on se reparle tout de suite après ça. 10h34, Audrey Pinchot qui est en vacances, c'est Pascal CV qui est là pour la remplacer. Elle est avec moi jusqu'à 14h, donc plus d'heures pour Pascal CV, pour les auditeurs. Je sais pas si pour elle, c'est
pour mon doc en psychiatrie.
Je sais pas si pour elle, c'est un plus d'être plus d'heures avec moi.
Je laisse les gens voter.
Oui, votez au 418-971-1021. Quel plaisir de le retrouver. On vous en jasait un peu tantôt à quel point il y a des gens qui stressent face à tout ce qui se passe dans l'actualité. Donald Trump étant un des acteurs principaux qui fait stresser les gens ces temps-ci. Puis on a le plaisir de jaser de ça avec Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, qui lui va nous apprendre peut-être à gérer le stress face aux nouvelles. Salut Joël!
Salut!
Merci d'être là avec nous. J'imagine que tu as constaté ça aussi, qu'il y a des gens autour de nous, peut-être toi, je sais pas, mais qui sont de plus en plus stressés face à un président qui n'est pas le nôtre, qui peut prendre des décisions qui vont faire en sorte que nous, on va peut-être se ramasser dans le trouble au Canada. On a eu l'impression de l'échapper belle dans les dernières heures puisque Trump voulait appliquer un 25% de taxes, ce qui nous aurait mis dans les problèmes pas pires. Il y a quelque chose de positif qui pourrait ressortir de ça dans quelques années, mais pour l'instant, on était content qu'il recule puis qu'il nous donne un 30 jours supplémentaires. Donald Trump, Pierre, tu l'as certainement vu passer dans l'actualité, qui essaie d'envoyer un message au Hamas en disant « Ben nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la bande de Gaza, on va raser ça, on va envoyer les Palestiniens en Égypte puis en Jordanie. Et puis nous autres, on va faire une côte... pas une côte d'Ivoire, comment il a dit ça? Une côte d'Azur. Une côte d'Azur 2.0. C'était du deuxième degré, mais les gens le prennent au premier degré en disant, attends un peu, là, il va aller jouer avec l'histoire, il va tasser ces gens-là, il va faire des hôtels, le Trump Hotel. Les gens sont vraiment stressés par rapport à cet individu-là.
Moi, je suis fâchée, je te le dis, j'aime pas ces commentaires. Je trouve ça vraiment épouvantable face à une tragédie.
Mais en fait, il fait un trouble de lui-même, dans le sens que c'est comme ça que depuis des années, il fonctionne. C'est en lâchant, en fait, des grenades à gauche et à droite et pour faire en sorte qu'on puisse parler de lui en bien ou en mal. Tu sais, ce sont des principes qu'on retrouve malheureusement parfois en politique ou dans les médias ou chez certains artistes. C'est qu'il cherche à tout prix, en fait, à avoir le power trip, en fait, et que les gens parlent de lui à tort et à travers, en fait. Donc, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, en fait, malheureusement, de voir ce genre de comportement.
Comment est-ce qu'on définit quelqu'un, justement, qui, bon, surpasse sa morale, peut-être, là, ou son éthique, à moins qu'il n'y en ait pas de ce côté-là, pour, justement, y aller dans une opération marketing?
Mais je ne sais pas si ça surpasse son éthique ou pas, parce que quand on regarde en fait la manière dont les choses se passent actuellement aux États-Unis, avec les différents hommes d'affaires qui sont en arrière de lui, est-ce que je suis tellement étonné de la manière dont il se comporte? Non, parce que ça fait des années que ça fonctionne de même. Tu vois, il y a une chose dont on parle peu en histoire, mais pendant un long moment, si on n'avait pas eu le général de Gaulle en France, probablement que la France aurait été déjà le 51e État américain. Parce que l'intention des Américains en 1944, quand ils ont débarqué, c'était de prendre possession de la France. On avait le PDG de Coca-Cola qui avait dit « il n'y a pas un seul soldat qui se retrouvera sans Coca-Cola ». Donc, il était dans une Jeep sur le deuxième front. Donc, ils étaient juste en arrière, en fait, des soldats qui se battaient. Et c'était sa manière à lui de pénétrer le marché européen pour nous permettre, je dis « nous » parce qu'à cette époque-là, je suis un ancien Européen, pour permettre aux Européens de pouvoir disposer, en fait, du Coca-Cola qui n'était pas encore sur le marché à ce moment-là. Donc, la manière dont les grandes entreprises américaines fonctionnent, que ce soit Google, Microsoft, Apple, ce qu'on appelle le GAFAM traditionnellement, mais ils se sont toujours comportés de cette manière-là. Je crois que la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'ils le font sans plus cacher. Ils ne le font plus pour nous faire croire qu'ils ont l'intention de nous rendre heureux. Non, ils veulent de l'argent, ils veulent qu'on soit des consommateurs, qu'on soit leurs esclaves, de manière directe ou indirecte, pour qu'on les rende plus riches, point à la ligne, c'est tout. Alors nous, c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on veut ou qu'est-ce qu'on ne veut pas, de quoi on a vraiment besoin, de quoi on a moins besoin, qu'est-ce qu'on peut se passer. Et à partir de là, on va juste les voir fonctionner de cette manière-là.
Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens sont hyper stressés? Comment ils peuvent gérer leur stress par rapport à ça? Puis, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui disent, tu sais, moi, Yann, j'ai jamais été stressé. Puis, si Trump arrive, ça me fait penser au fameux poème Tu seras un homme, mon fils, là. Si t'es capable de voir détruire l'œuvre de ta vie et d'un seul souffle rebâtir sans faire un soupir.
Est-ce que tu nous fais un AVC, Yann?
J'ai toujours été de ce type-là. C'est-à-dire, les choses que je contrôle pas, m'a les laissé arriver, puis par la suite, je vais faire avec, puis je vais essayer de faire mieux que ce que je faisais avant. Mais il y a d'autres personnes qui ont l'impression de voir leur monde totalement s'effondrer.
C'est le contrôle, justement? C'est une manque de contrôle vu que la politique n'a pas vraiment de pouvoir autre qu'au vote?
Effectivement, ça pourrait être le manque de contrôle, mais il y a des gens qui ont de la misère à dormir ces temps-ci. Joël, ils doivent faire comment pour gérer leur stress?
Mais en fait, il faut comprendre que le stress dans lequel on est présentement, on est dans l'imaginaire, on n'est pas dans la réalité. Dans le sens qu'on anticipe quelque chose qui pourrait se passer, et en fonction de cette anticipation-là, nos mécanismes de défense, nos réflexes pour essayer de survivre vont se mettre en action. Si je prends la route quand il y a une tempête de neige ou de la pluie verglaçante, mon anxiété, l'anticipation que je pourrais avoir un accident ou que quelqu'un pourrait me rentrer dedans, d'accord, fait en sorte que je vais conduire beaucoup plus prudemment. Donc là, je suis dans le contrôle, entre guillemets, pour reprendre ce que Pascal disait tantôt. Je n'ai pas nécessairement de contrôle sur la météo, mais mais j'ai un contrôle sur la manière dont moi je vais agir face à une météo qui est capricieuse. C'est un peu ce qu'on a perdu face aux annonces de Donald Trump. Et ce qui est peut-être dommageable, en fait, c'est que pour beaucoup de journalistes ou de chaînes de radio et de télé, c'est qu'ils ont bien peur de l'arrivée de Pierre Poilievre. Je pense que toute l'aile gauche de notre société a très peur aussi, et qu'on s'est servi en fait de la peur de Donald Trump pour faire en sorte qu'on peut avoir peur éventuellement des conservateurs. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, c'est certain qu'il y a beaucoup d'informations qui vont être traitées non plus de manière objective, mais d'une manière très imagée, très angoissante pour monsieur et madame tout le monde. Et moindrement que, tu sais, pour moi, je crois qu'avec ce qu'on vient de vivre les 5 dernières années, notamment la pandémie, je ne crois pas qu'on peut aller plus loin dans l'absurde au niveau de la société. Mais maintenant, il y a des gens qui sont mal sortis de ces 5 dernières années, la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation et ainsi de suite, et qui sont restés figés, en fait, avec une peur réelle, avec ce qui nous est arrivé les dernières années, et ce qui fait que ça ne fait que d'augmenter l'imaginaire et on rentre dans un film d'horreur.
J'ai une question pour toi, Joël. La dernière fois, on a abordé ça un peu là, quand on s'est parlé ici sur les ondes, mais comment est-ce qu'on explique la rupture totale entre les deux extrêmes, soit d'être en accord avec un politicien et l'autre gang qui est en complet désaccord, et l'absence de possibilité de canal de communication pour en venir à une discussion? Il y a un moment où, entre deux individus, il y a quelque chose de tellement enraciné, de tellement cristallisé, qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une discussion ouverte et sincère. On explique ça comment? À quel moment? Qu'est-ce qui nous guette, en fait, de devenir comme ça, très, très froid quant à l'opinion de l'autre?
Mais en fait, c'est que ce genre de situation-là vient simplement ramener beaucoup de choses qu'on a peut-être pas assez bien développées depuis qu'on est enfant. Si nos parents et nos enseignants ont fait ce qu'ils pouvaient pour pouvoir nous accompagner et nous permettre de développer nos ressources, ça reste quand même que parfois la vie, elle est difficile, elle peut même être rude pour certaines personnes, et il va y avoir à ce moment-là des blocages au niveau du développement de la personnalité de la personne, au niveau du développement de ses ressources. Donc, quand on se retrouve, en fait, dans une situation où l'angoisse prédomine notre pensée, eh bien, on va aller rechercher des mécanismes de défense qui sont très archaïques, qui sont présents notamment chez des jeunes de 4-5 ans, d'accord, où c'est blanc-noir, ou avoir par exemple certains adolescents, quand les ados sont pris avec toutes leurs hormones, qu'ils ne se comprennent plus, qu'ils essayent de trouver un peu de sens dans leur vie, là aussi, ils vont avoir des comportements qu'on trouve normaux et qui sont normaux chez des enfants de 4-5 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on réagit, c'est blanc ou c'est noir. On a beaucoup de difficultés à pouvoir, justement, arriver à avoir un discours nuancé. Et je crois que des gens comme Donald Trump jouent beaucoup là-dessus aussi, parce que ce sont des personnages qui sont caricaturaux. Donald Trump se présente comme étant atteint du syndrome de la toute-puissance infantile, c'est-à-dire que c'est Superman qui débarque et qui fait tout ce qu'il veut. Il pense qu'il va tout résoudre.
Il
le pense pour vrai?
Il se croit?
Mais
ou...
en tout cas, c'est son discours. Est-ce qu'il le pense pour vrai? Je le sais pas.
J'en ai qu'à dire que j'ai l'impression que oui, moi, ça aurait pu être un spectacle, mais pour sa part, j'ai vraiment l'impression qu'il a réussi même à se convaincre.
Mais c'est fort possible, parce que rendu à son âge, normalement, il devrait avoir développé d'autres ressources, et je crois que la négociation entre les peuples, la capacité de se comprendre mutuellement, essayer de pouvoir arriver à voir les forces et les défis de chacune des personnes, ça fait partie, en fait, de ce qui fait en sorte qu'une société, elle est saine. Alors, quand on a un chef d'État qui, malheureusement, réagit d'une manière aussi rigide que ça, c'est certain que ça va polariser énormément les choses, et ça va polariser aussi à l'intérieur des États-Unis. Il n'y a pas juste... Tu sais, nous, on parle de notre réalité canadienne ou québécoise, mais il faut s'imaginer que si on était aux États-Unis, on est complètement pris dans cette dichotomie-là, et la difficulté de trouver les nuances pour arriver à voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour construire un monde plus juste. Je te dirais qu'à l'inverse, quand tu regardes la Belgique, quand tu regardes l'Italie, qui sont les deux pays où il y a le plus de nuances dans les discours politiques, tu as les élections, puis ça te prend presque un an pour construire un gouvernement qui est très fragile, parce que c'est des gouvernements de coalition. Donc, à partir de ce moment-là, il y a peut-être un peu trop de nuances, parce que les gens ont de la misère à s'entendre là aussi ensemble. Donc, il y a vraiment un équilibre à essayer de trouver. Je pense qu'au Québec, on a quand même relativement un bon équilibre avec les 5 partis que l'on a. On est capable de gérer en ayant un gouvernement minoritaire. D'accord, donc ça aussi, ça peut faire la part des choses, tandis qu'aux États-Unis, c'est blanc ou c'est noir, donc c'est rouge ou c'est bleu, et il y a beaucoup de difficultés à ce moment-là à concevoir les choses, en fait.
Puis Donald Trump parle beaucoup pour son peuple, il parle pas pour les Canadiens, il parle pas pour les autres autour, il parle pour son peuple. Puis il semble y avoir une autre perception de Donald Trump de l'autre côté de la frontière. De l'autre côté de la frontière, les gens ont tendance souvent à nous demander, quand on va les visiter, mais pourquoi vous venez pas rester ici, tu sais, c'est le plus beau pays du monde, les États-Unis. Tandis que nous, on est au Canada, puis on se dit, ben, tu sais, au niveau de la sécurité, on est bien. Si, oui, ça coûte cher d'impôts, mais si jamais il y a une catastrophe, j'ai une catastrophe dans ma vie, je sais pas, moi, j'ai le cancer, ben, je vais bien me faire soigner par le système de santé si je suis assez patient pour me faire soigner. Mais pour les Américains, les États-Unis sont le meilleur pays du monde, puis ils ont l'impression qu'ils ont comme le défenseur de l'Amérique actuellement là, qui est en place. Je suis pas sûr qu'ils ont toutes la même perception que les gens qui sont à l'extérieur des États-Unis. Mettons.
Mais y a-tu joué sur la peur de ces individus-là de perdre un peu leur identité à travers les dernières années par rapport à la Chine qui a remonté l'économie qui descendait, il y a comme une fracture. Est-ce qu'il a joué sur les deux pans, autant mondialement que dans son peuple?
Mais quand il prétend en fait que la seule immigration légale ou illégale qui arrive aux États-Unis, ce sont nécessairement des Hannibal Lecter, je pense
qui mangent
que...
les animaux de compagnie.
Des aliens, ils appellent les aliens.
C'est qu'il y a un moment donné où, dans son discours, c'est exagéré. Mais pour revenir à ta question, Yannick...
Ouais.
Tu vois, je travaille beaucoup en Alberta, j'accompagne des écoles francophones en Alberta, et je me rends compte qu'à force d'aller en Alberta, l'image que l'on a de l'Alberta n'est pas ce que moi j'observe en Alberta.
Exact.
D'accord. Et donc, je me rends compte que la manière dont on va en parler, que ce soit dans nos réseaux sociaux ou dans les réseaux plus médiatiques, il y a souvent un préavis défavorable face à ce qui se passe en Alberta. Je dirais que au niveau des démarches vertes et écologiques. Oui, on va parler du pétrole, bien entendu, mais en même temps, je n'ai jamais vu autant de panneaux solaires qu'en Alberta sur l'ensemble du trajet que j'ai fait. Puis je l'ai fait à 6 reprises en voiture et c'est en Alberta que je vois le plus de panneaux solaires. Le système de tramway et de transport en commun à Edmonton et à Calgary sont extraordinaires, sont vraiment bien montés, ce qu'on n'a même pas à Montréal. Donc, il y a des choses qui sont là. Et une chose très comique, c'est que quand je parle à mes clients en Alberta, ils me disent « Mais pourquoi est-ce qu'au Québec, vous pensez ça? Pourquoi est-ce qu'au Québec, vous faites ça? » Et je me rends compte qu'eux aussi sont mésinformés sur ce qui se passe vraiment au Québec et pourquoi nous allons prendre certaines décisions, notamment par rapport au fait qu'on ne veut pas que la religion ait un pied à terre dans les institutions publiques et que surtout auprès de toute personne en autorité, mais eux ne le comprennent pas de la même manière parce que les gens vivent beaucoup plus, peut-être un peu plus fermés, un peu plus ghettoisés d'ailleurs éventuellement, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aussi des enjeux face à l'immigration là-bas, mais ils ne vont pas le voir sous la même perspective que ce que nous vivons et c'est pas non plus la perspective de Justin Trudeau.
Exact. Tantôt, on parlait en ouverture d'émission des gens qui remettent des voyages qu'ils étaient supposés faire cette année en raison de Donald Trump, en raison de ce que Donald Trump veut faire au Canada. Moi, de mon côté, je suis pas mal plus au centre. Là. On a souvent jasé, toi et moi, Joël, même dans mon ancienne vie radio. Je suis ouvert aux gens d'un côté comme de l'autre tant aussi longtemps que ces gens-là sont parlables. Mais il y a quelque chose que je vais toujours respecter, c'est des gens qui respectent leurs propres valeurs fondamentales. Si les gens disent « ben moi, j'avais un voyage à Disneyland, puis... j'y vais pas parce que je suis totalement en désaccord avec ce que Trump fait. » Puis une autre personne dit « Ben moi, j'avais un voyage avec les enfants à Disneyland puis je vais y aller parce que Donald Trump ne représente pas tous les Américains comme Justin Trudeau ne représente pas tous les Canadiens. » Moi, ce que Justin fait de son côté, ça me touche pas moi. Là. Ben oui, parce que c'est mon premier ministre, mais je veux dire, je suis pas du tout en accord avec ce qu'il a fait avec l'argent des Canadiens. Donc, si un Américain me disait « Moi, je vais pas chez toi à Québec en raison du fait de ce que Justin Trudeau a fait, je suis pas en accord avec ce qu'il fait, je trouverais ça très désolant. Mais les valeurs fondamentales, je trouve que c'est hyper, hyper important, Joël. Mais il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Puis j'ai fait un rapport tantôt avec la pandémie. Il y a des familles qui se sont déchirées, Joël. Il y a des frères qui ne se parlent plus encore à ce jour en raison du fait qu'ils n'étaient pas d'accord l'un et l'autre avec ce qui se passait durant la pandémie, avec les décisions du gouvernement. J'ai l'impression de revivre ça. Qu'est-ce que, tu sais, des gens qui sont un peu comme ça dans les extrêmes puis qui sont totalement fermés à Trump et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils pourraient se dire en dedans d'eux là, pour essayer de se dire... Attends un peu, là, j'ai peut-être un peu overreact là, avec ce qui se passe aux États-Unis. Ils pourraient faire comment pour élargir peut-être un peu plus leur horizon là?
Mais je pense que la première chose à faire, c'est peut-être de s'informer à plusieurs canaux différents, dans des groupes différents, des origines différentes. Donc, si on lit un journal, par exemple, ou on écoute une télévision ou une radio un peu plus à gauche, ben allons aussi aller chercher de l'information un peu plus à droite également.
Ça peut être difficile, Joël. C'est un travail confrontant.
Oui, c'est un effort, mais c'est à nous à ce moment-là de pouvoir faire la part des choses. C'est Yannick, tu m'as interviewé plein de fois par rapport à la consommation de psychotropes, le fameux Ritalin, Concerta et compagnie. Et j'aimais beaucoup, en fait, toutes les émissions que j'ai faites avec toi, tu me permettais de dialoguer, d'expliquer, de nuancer. J'ai jamais été quelqu'un qui était contre le médicament. Je suis quelqu'un qui est-ce qu'on peut l'utiliser de la bonne manière? Mais souvent, quand tu vas regarder dans d'autres médias, surtout des médias papier, je pense entre autres à des revues qu'on achète à 3,99 $ quand on est à la caisse en attendant de payer nos commissions, d'accord? Mais là, souvent, c'est pour ou contre. Et on mettait Annick Vincent pour le médicament et Joël Monzé contre le médicament. Or, Annick a quand même certaines nuances et je vais avoir beaucoup de nuances par rapport à tout ça. Donc souvent, on va simplifier trop. Et ça, c'est l'erreur de certains journalistes ou de certains animateurs de vouloir simplifier un problème qui est complexe. Et c'est ça qui va attiser à ce moment-là les gens dans leur réactivité, dans leur colère, dans leur frustration, dans leur besoin de s'affirmer, quitte à provoquer éventuellement, pour faire en sorte que leur message est là. Et donc oui, malheureusement, puis je te dirais même au niveau de tout ce qui a été la gestion de la pandémie, le fait de pouvoir d'amener deux camps, comme s'il y avait un camp de moutons et un camp de conspirationnistes, la réalité, elle est bien plus nuancée que ça, y compris à l'intérieur du gouvernement, y compris dans les discussions qui ont lieu, mais c'est comme si on nous a montré une polarisation sur laquelle certains lobbies ont plus que joué pour faire en sorte qu'ils puissent vendre en fait les produits qu'ils souhaitaient mettre sur le marché à ce moment-là.
Mais c'est-tu humain, des fois, d'être comme ça, j'appelle ça l'algorithme humain, mais on a un biais en nous parfois. Quand on a une opinion bien arrêtée sur quelque chose, on va toujours s'intéresser à des gens ou des articles ou des reportages qui vont nous réconforter dans ce que nous, on a l'impression que c'est. C'est-tu facile d'enlever ce fameux biais-là? Moi, à partir du moment où j'ai appris que je pouvais avoir un biais, j'ai commencé à faire attention à ce fameux biais-là. Puis comme tu l'as dit, puis moi, c'est un plaisir de t'avoir à chaque année comme collaborateur. Tu sais, parfois, il faut s'ouvrir aux autres. Parfois, je peux aller voir Le Devoir. Je peux aller lire Le Devoir, des articles du Devoir qui, normalement...
C'est comme si c'était un média à tout.
C'est extrêmement
c'est
à gauche.
C'est juste loin de toi, à la base.
C'est très à gauche. Ouais. Puis de l'autre côté, je peux aller voir des articles de Libre Média qui est un peu plus à droite que ceux qui sont à gauche. T'sais. C'est important de regarder ce qui se fait des deux côtés. Puis Joël, changer d'idée des fois, là, ça se peut, hein?
Ben oui.
Oui. Mais il y en a qui ont peur de changer d'idée, puis on a vu ça pendant le temps de la pandémie, puis on voit ça actuellement avec ce qui se passe dans le monde.
J'ajouterai un commentaire sur ce que tu as dit. Parce que de lire ce qui est hors de ton opinion constante, là, c'est
J'ai
une
même
chose.
Été lire le Twitter de Guillaume Nadeau-Dubois.
Bon. Mais l'autre affaire, c'est de le lire pas pour l'haïr, le média. Parce qu'il y en a qui vont consommer des choses différentes d'eux-mêmes pour haïr, pour aller stimuler un sentiment de confrontation. Il faut que tu le lises aussi avec une ouverture d'esprit, sinon ton travail vaut rien.
C'est Gabriel Nadeau-Dubois, excusez.
C'est la nuance est applicable.
Puis ce que j'aimais bien, ce que vous mentionniez, c'est qu'on est capable de pouvoir être ouvert à l'idée de l'autre et ou reconnaître qu'on ne sera jamais d'accord avec la perception de l'autre. Et respecter l'autre malgré tout. C'est certain que j'aurais plus de difficultés à parler avec quelqu'un du Hamas, d'accord, parce qu'ils sont allés dans une extrême avec laquelle je ne suis pas plus d'accord de ce qu'eux ont fait, de la manière dont Netanyahou a réagi.
Mais c'est un groupe terroriste.
Exactement, mais en même temps, le Palestinien ou la Palestinienne qui souffre quotidiennement à cause de ce que le Hamas et le Netanyahou ont décidé, mais veut pas, ces gens-là sont importants et c'est là que ça montre comment dire, l'incapacité ou le manque d'empathie de Donald Trump en disant qu'il veut raser tout ça pour en faire une côte d'Azur. L'objectif pour lui, c'est de faire du fric et il s'en fout royalement de la population qui est en souffrance là-dedans. Je pense qu'ils sont quand même 4 millions de personnes. C'est 4 millions de personnes qui n'ont pas demandé à vivre ce qu'ils vivent pour le moment. Et donc, si je reviens avec ça, l'autre chose aussi, c'est d'accepter qu'il y a de la nuance dans chacun des camps. Moi, je me souviens d'avoir écouté une émission il y a quelques mois où c'était comment dire, le grand rassemblement, la convention qui confirmait que Donald Trump allait être le candidat républicain. Et il y avait des animateurs et des animatrices qui disaient, ah ben, tiens, c'est drôle parce que quand on regarde telle application qui est généralement utilisée par les homosexuels, c'est très très actif autour du centre de convention. Comme si, parce qu'on est homosexuel, on n'est pas nécessairement d'accord avec Donald Trump. Alors que il y a une nuance, c'est vrai que oui, il va y avoir une partie religieuse qui est en arrière de lui et qui peut-être, eux, vont avoir beaucoup de difficultés à accepter la grande diversité de l'expression sexuelle de chacun des individus, mais il y a de tout, en fait, beaucoup plus chez les républicains, ça déborde de tout ça. Et quand on voit, en fait, toutes ces nuances-là, et on va faire la même chose, ce serait aussi la même chose de le faire avec les démocrates, il y a des gens qui auraient voté pour Biden ou pour Madame Harris. D'accord, sans nécessairement être d'accord avec l'ensemble des valeurs ou l'ensemble du programme des démocrates, mais ça, là aussi, il y a toute une nuance à l'intérieur de ça. Oh, la même chose chez les woke ou la même chose chez les gens de droite. Donc, comment est-ce qu'on peut retrouver la beauté des uns et des autres sans nécessairement avoir à adhérer aux pensées de l'autre?
J'ai parlé du billet, du fameux billet. Bon, moi, je m'appelle Steve, je suis dans ma voiture présentement. J'entends Dr. Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, puis Marceau, puis Pascal. Là, j'ai entendu billet. C'est quoi un billet de confirmation? Puis qu'est-ce qui fait en sorte que je pourrais l'observer, ce fameux billet de confirmation-là que j'ai en moi, puis essayer de me l'enlever une fois de temps en temps? On le détermine comment, ce fameux billet-là?
Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'un billet, c'est une preuve d'intelligence. Donc, plus on est intelligent, plus on risque d'avoir des biais.
OK.
D'accord? Ça, c'est déjà intéressant. Alors, ça veut dire quoi? Mais en
Mais c'est
fait,
pas une certitude, là.
un biais, mais oui, mais c'est parce que notre intelligence peut parfois nous amener à être bien idiots. Ça, c'est.
C'est ça.
Faut faire attention à ça.
Il
Et
y a
c'est
Yannick qui
là
lève
que.
la main.
C'est ça qui m'arrive, Joël, à tous les jours.
Et c'est là que on peut regarder dans le sens qu'un biais, c'est un raccourci que notre cerveau fait pour essayer d'analyser beaucoup plus rapidement une situation. Et donc, à ce moment-là, nous allons interpréter un ensemble comment dire, d'éléments qu'on associe à tort ou à raison, et on va prédéterminer ce que c'est ou ce n'est pas. Ça arrive dans plein de situations. Il y a par exemple quand on voit un disque. De manière partielle, parce qu'il y a quelque chose devant, notre cerveau va quand même imaginer le disque, parce qu'on va faire abstraction, en fait, du fait qu'il y a quelque chose devant, et on va déterminer qu'il y a un disque, même s'il n'y a pas de disque. Les indices nous donnent l'impression que. Alors, si ça peut nous aider à aller très vite dans l'analyse, si on va parfois trop vite, ou qu'on a peur de se remettre en question, qu'on a peur de se voir aller, parce que ça demande de l'effort de se
Ouais.
remettre en question, d'accord? Ou ça demande des efforts de pouvoir s'ouvrir à la pensée de quelqu'un d'autre, même si on n'est pas d'accord avec cette personne-là.
Toi, tu
Et
rushes
il y a
beaucoup
des
chaque jour,
personnes
Yannick.
qui sont trop en souffrance, qui ne veulent plus réfléchir,
Ouais.
qui veulent juste dire, regarde, dis-moi ce que je dois faire, dis-moi ce que je dois penser, parce que je vais tellement pas bien que je préfère que tu me dises quoi faire. Et c'est là que ça devient des personnes qui sont facilement happables par des fanatiques.
Puis des gens aussi, moi j'ai des amis qui adorent écouter l'émission, qui adorent écouter ce contenu-là parce qu'ils n'ont pas le temps de s'abreuver de l'actualité. Puis là, je parle peut-être plus de Marceau le midi parce qu'on est plus en actualité sur l'heure du midi, mais qui vont pas se prononcer. Puis pourtant, je sais qu'ils écoutent, je sais qu'ils ont des informations autour d'eux et tout ça. Mais en souper, par exemple, ah, moi je peux pas me prononcer parce que je suis pas bonne, je connais pas tout, j'aime pas. Ils ont peur aussi d'être ignorants ou encore d'être innocents à table dans une discussion, fait qu'ils se permettent pas d'user de leur réflexion ou encore d'avoir des discussions. Ça, ça amène à des biais préconçus aussi qu'ils vont utiliser pour justement se protéger. Il y en a qui vont l'affirmer, là, qui n'ont pas les connaissances, qui sont mal à l'aise, mais d'autres, ils vont essayer de le camoufler parce que c'est un inconfort aussi de ne pas être au courant de quelque chose, de ne pas pouvoir discuter. Est-ce que ça se peut, ça aussi, Joël, non?
Oui, tout à fait. Puis ça, si, je crois que nos écoles pourraient jouer un rôle beaucoup plus intéressant par rapport à ça. Tu vois, mon garçon, il a fait 2 ans l'école à la maison pour plein de raisons. Et pendant les 2 années, il était en 2e et 3e année primaire, on lui a fait prendre des cours de philosophie. J'avais un de mes amis qui venait de prendre sa pension, professeur de cégep, et qui venait passer une demi-journée par semaine avec lui pour l'amener à réfléchir sur plein de sujets. J'adore puis il trippait tellement qu'il se filmait, puis il réécoutait dans ce qu'il était en train de faire. Tu sais, et quelque part, il singeait aussi un peu ce que moi, je faisais comme une partie de mon travail. Et quelques années plus tard, tu sais, il est à l'école, il est en secondaire 1, puis on écoute la radio, il y a une thématique qui l'interpelle, et il me dit « Papa, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça ?» Puis je dis « Mais toi, mon grand, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et puis alors là, il vient tout blanc, et il me dit « Mais papa, je ne peux pas réfléchir, c'est trop dangereux.
»
Donc, tu vois que c'est un garçon qui avait une grande capacité de réflexion et d'abstraction, déjà très jeune, d'accord, mais qui... dans l'environnement scolaire, puis je ne dis pas que c'est nécessairement la faute des professeurs, d'accord? Je dis juste que l'environnement scolaire fait en sorte que les gens ont peur d'oser avoir des opinions, oser se manifester.
Il n'y a pas assez de place au débat, pas assez de place à différence d'idées. On ne fait pas une différence entre « voici des faits », faudrait l'apprendre parce que ça fait partie de notre histoire, ça fait partie des mathématiques, ça fait partie du français, ça fait partie... Ça, ce sont des faits, mais on pourrait avoir un cours où toute la capacité... Puis c'est drôle, hein? J'ai donné des ateliers de débat au secondaire, puis à ces étudiants-là, quand j'en donnais, je ne leur permettais pas de choisir s'ils étaient pour ou contre. Ils pigeaient. Ils pigeaient dans leur préparation. Ils étaient obligés d'être contre. J'essayais de stimuler un peu. Puis des fois, ça tombait, quelqu'un était pour, puis il avait pigé pour, mais... J'essayais de stimuler leur esprit critique de cette manière-là et c'était la chose la plus difficile. De les amener à aller d'un côté ou d'un autre là, par rapport à leurs opinions, hey, c'était difficile ça.
Oui. Oui, et en même temps, c'est un très bel exercice à faire parce que quelque part, ils peuvent à ce moment-là apprendre à s'affirmer ou apprendre à affirmer une idée face aux autres, mais ils sont moins touchés par cette idée-là vu que ce n'est pas nécessairement leur idée. Donc, ils peuvent se camoufler derrière « Ah, c'est Pascal qui m'a donné le ticket pour ou contre et je l'ai utilisé. » Et avec des ados, c'est vraiment des belles choses qu'on peut faire. En fait, quand je dis des ados, on peut commencer à partir de la 4e, 5e année primaire, justement, pour ou contre les OGM, pour ou contre ceci, pour ou contre cela, pour les amener, en fait, à défendre une idée. Et alors après, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle des cercles de parole, où là, on peut aborder une thématique beaucoup plus personnelle par rapport à ce que les jeunes vivent à un moment donné ou à un autre, et le jeune va dire « Ben moi, je suis d'origine maghrébine, et voilà comment je vois les choses à travers ce que moi j'ai appris, puis ma religion, elle me dit ceci, et ma religion, elle me dit cela, et on peut avoir une autre personne qui est plutôt athée, ben moi, comme personne, je suis athée, mais la manière dont tu viens nommer les choses, je ne suis pas certain que ce soit toujours très respectueux de telle chose ou telle chose, d'accord ? Donc, et on peut amener à ce moment-là un positionnement, en fait, de l'individu qui va... être capable de pouvoir s'exprimer. Et si on faisait ça beaucoup plus souvent dans nos écoles, qu'on remettait en question aussi la base des connaissances, mais peut-être que il y aurait plus de facilité à accepter, un, de se remettre en question, et deux, de défendre son avis, ou au moins de le présenter, son avis, et de l'exprimer. Et il n'y a personne qui a la solution pour tout. Il n'y a aucune personnalité publique, aucun politique, aucun individu n'a une solution pour tout. C'est chacun, c'est collectivement. On a notre petit, notre pièce de casse-tête et on vient essayer de la placer sur la table pour essayer de contribuer à un tout. Et c'est le fait de contribuer à un tout avec toutes les nuances de notre société qui va faire en sorte que peut-être qu'on va construire un monde beaucoup plus juste. Et ça prend à l'école.
Ouais. Avec la citation de Donald Trump hier, puis qu'on qu'on entend partout aujourd'hui, là, qu'on regarde RDI ou encore LCN, puis même on en parlait tantôt. Donald Trump a dit durant une conférence de presse qu'il allait faire une côte d'Azur 2.0 en Palestine et on allait déporter les Palestiniens, les envoyer dans les autres pays aux alentours qui ne veulent pas les recevoir, soit dit en passant. Puis j'écoutais ça et je me disais, mais quel est l'objectif derrière ça? C'est pas anodin. C'était-tu du deuxième degré? Est-ce que c'était du sarcasme? Il y avait-tu un message codé dans le, où il disait, ben, au Hamas, si vous continuez à faire les cons avec nous, ben, on va faire en sorte qu'on va s'occuper de vous et on va vous éradiquer. J'ai toujours tendance à essayer de trouver quelque chose de logique à quelque chose qui est dit, qu'il n'y a pas de crise de bon sens, comme peuple palestinien, on va vous déporter puis on va faire une côte d'Azur 2.0. Le sarcasme et le deuxième degré sont rarement sont très peu compris par la population. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne sont pas capables de percevoir ça, le sarcasme puis le deuxième degré? Il y en a qui le comprennent tout de suite, puis il y en a d'autres qui se disent « Ah, oh, t'as peur, il a dit ça, là, c'est sûr qu'il niaise pas. » Moi, j'ai l'impression que c'est un message qu'il envoyait sans nécessairement avoir pesé les mots qu'il a utilisés.
Oui, y a-tu de la place en politique pour
ouais,
ça?
Oui, c'est ça. Pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas le deuxième degré? Pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas le sarcasme?
Je pense pas que ça.
Mais je ne sais pas si c'est un sarcasme ou je vais peut-être être beaucoup plus critique par rapport à ça. Tu sais, il a prétendu qu'il allait nous mettre 25% de droits d'augmentation. D'accord? Puis il en a parlé. Ouais. Il les annonce samedi. Et lundi, il abandonne déjà les droits avec les Mexicains et quelques heures après, il les abandonne après avec les Canadiens. Alors, il prétend avoir gagné, d'accord? Mais est-ce qu'il a gagné?
Non.
Exactement. Donc, il faut une autre chose dans les médias pour couvrir le fait qu'il vient de se faire déculoter. Parce qu'il n'a pas été, premièrement, c'est illégal ce qu'il fait. On a le texte de l'ALENA. D'accord. Deuxièmement, l'OMC n'aurait probablement pas toléré ce qui est en train de se passer présentement. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il donne l'impression d'avoir gagné, sa base croit qu'il a gagné, et puis il occupe la place médiatique en ayant lâché une bêtise incroyable. Et nous, on embarque et on en discours, tu sais. Et donc, c'est là qu'il faut regarder comment, parfois, on se fait nous-mêmes avoir par nos propres peurs, nos propres croyances, notre imaginaire. OK, on revient, on respire, on prend soin de soi, on analyse la situation. Et à ce moment-là, tu sais, c'est pas ce que je viens de raconter, c'est pas nouveau, c'est pas sorti de Joël Monzé. C'est des choses qui se sont passées avec l'histoire du cigare et Bill Clinton à l'époque. Il y a eu un film qui a été fait en, je pense, par Robert De Niro.
Ce n'était pas une relation sexuelle, Joël. C'était une fellation seulement.
Mais tu vois, c'est qu'il y a souvent d'une situation, c'est que c'est un principe de communication. C'était, tu sais, regarde, on le voit dans Stat aussi, pour ceux qui regardent la télésérie le soir, tu as un préposé qui a été pris, en fait, qui a été condamné parce qu'il a fait un peu de poker, d'accord? Ça atteint l'image de l'hôpital, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver un médecin qui a fait un acte héroïque et on va parler de ça. Et donc, à partir de ce moment-là, on détourne, en fait, l'attention des gens pour ne pas qu'on parle. Maintenant, je pense pas qu'il fallait parler du brave préposé au bénéficiaire qui avait été joué au poker, d'accord? Mais on voit, c'est dans les films. Donc les films nous montrent aussi, si on regarde au premier degré un film, on ne l'a peut-être pas vu, d'accord? La manipulation médiatique. Si on regarde ça de manière au deuxième degré et qu'on fait le lien, c'est pour ça que je faisais le film, le référence au film What the Doc ou What the Bleak the Doc, quelque chose, je sais plus exactement, j'essaierai peut-être de retrouver le titre du film. C'est un film qui est sorti dans les années aux alentours de 1995, d'accord? Et en fait, ça permet de voir à quel moment, parfois, on peut se faire manipuler, justement, par une information qui est outrancière, et ça fait en sorte qu'on ne parle plus des vraies affaires.
Okay. Mais le sarcasme est le deuxième degré. Je veux revenir avec ça. Pourquoi il y a des gens qui ne le perçoivent pas?
Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont... Tu sais, c'est toujours une question d'humour. Il y a des gens qui vont adorer MacLeod, qui est au premier degré et qui auront de la misère avec Sol. En même temps, je me souviens d'avoir été voir un spectacle de Sol et je ne riais pas en même temps que tout le monde parce que je riais souvent au troisième ou au quatrième degré derrière Sol. C'est la même chose avec Raymond DeVos.
Quand tu parles de Sol, tu parles de Marc Favreau, là, le personnage.
Oui, exactement.
De Sol,
ouais. Donc, oui, je ne parlais pas Sol Zanetti.
Mais tu te sentais seul.
Du reste, qui est un homme politique que je respecte, même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec toutes ses idées.
Ah, mais ça fait toute la différence. J'adore cette phrase-là, moi.
Oui, c'est ça. Puis je peux apprécier Gabriel Nadeau-Dubois sans nécessairement adhérer à la manière dont il va fonctionner et ainsi de suite. Et la même chose pour d'autres hommes et femmes politiques qui sont engagés. À partir du moment où la personne elle est intègre, quelles que soient ses idées, je vais respecter cette personne-là. Mais si je reviens en fait avec ce que je nommais, c'est que souvent les gens vont avoir un premier degré dans la lecture, dans la manière de faire les choses. Ouais. Et c'est peut-être la majorité aussi des gens qui vont le voir. Souvent aussi, les gens n'ont pas de malice, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas parfois des réactions qui sont regrettables, mais il n'y a pas nécessairement toujours une intention d'eux. Et là, quand tu n'as pas de malice, parfois, c'est peut-être plus difficile d'aller voir le deuxième ou le troisième degré derrière une affirmation.
C'est ça. Je suis rempli de malice. C'est pour ça que je vois toujours le deuxième degré.
Non.
Non?
Non. Non, parce que tes jokes sont souvent premier degré, là, puis tu me chicanes de ne pas les rire.
Mais c'est ça, c'est que ce n'est pas parce que, en fait, c'est une capacité de voir et de voir la vie ou de la décrire, et ça peut être utilisé sous forme de l'humour avec un deuxième ou troisième degré, d'accord, ou ça peut être utilisé d'une manière nuisible pour la société, et c'est là qu'on
utilise... C'est ça que je disais en début de show.
La malice.
C'est ça que je dis en début de show. Moi, une personne intelligente et une personne valide pour certains postes ou certains rôles doit utiliser de ses qualités à bon escient. Et où je décroche, c'est quand c'est fait à mauvais escient, que ce soit de façon intelligente ou sotte. Puis là, avec Donald Trump, pour moi, c'est pas utilisé pour la bonne raison. Ça divise, c'est incroyable. Puis tu sais, il y a quelqu'un qui nous écrit, en même temps, il y a peut-être un but caché là-dedans, même si c'est du sarcasme, du second degré, même s'il n'est pas sérieux là-dedans. Il peut pas dire des énormités par son statut. C'est une chose auquel j'adhère. Mais si on revient au deuxième degré, admettons, at large, globalement, dans la société, je prétends qu'il y a aussi une question d'intelligence sociale là-dedans.
Ouais,
il y en a qui ont plus de fume sur ce qui se passe aussi dans le non-verbal. Là.
Joël, c'est toujours un plaisir de te jaser. J'espère te reparler dans les prochaines semaines. Pour les gens qui veulent avoir accès à tes livres, t'avoir en conférence, veulent en savoir plus sur tes travaux, c'est joelmonzé.com?
Oui, tout à fait. C'est le plus simple.
On se laisse là-dessus. Merci, Joël Monzé.
Merci.
Salut à vous deux.
Bye-bye.
Bye.
Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. On aime bien jaser avec Joël. Je le reçois souvent dans Marceau Soir. On parle de plein de sujets. Mais c'est ça, le fameux biais là, qu'on peut avoir chacun d'entre nous. Il faut le surveiller, ça, parce que sinon, on reste en vase clos avec des gens qui pensent uniquement comme nous. Puis on ne reçoit pas l'information de l'extérieur. Les réseaux sociaux nous ont amené ça, là, mais l'humain aussi est comme ça.
Absolument.
On a comme un algorithme, puis on choisit les gens par rapport à leurs valeurs, puis on les amène vers nous. Puis plus ils nous ressemblent, plus on aime ça, plus on se conforte. Mais ça se peut qu'on se trompe aussi. Puis de ne pas être ouvert aux autres, c'est un défaut, je pense, de ne pas être ouvert aux autres.
Puis on l'invitera dans Marceau le midi, mais tu sais, il y a 12 biais cognitifs là, plus récurrents. Puis ces biais-là, c'est des biais qui sont inconscients pour la plupart. On en a tous, mais on n'est pas conscients, ils sont cognitifs.
Exact.
On en fera le tour.
Faut juste les observer.
En fait, faut en prendre conscience, faut observer, t'as bien dit. Pourquoi on est là? Pourquoi tu nous mets ça? C'est pas une critique pantoute.
Ça me rappelle ma jeunesse.
Puis on tombe là-dedans parce que je comprends que t'es rendu vieux, t'es nostalgique.
Cypress Hill, avec la tournée canadienne au Cannabis 2025 va être en spectacle à l'Agora du Vieux-Port de Québec. Ça va être le 21 mai prochain. Les invités spéciaux, c'est De La Soul et The Far Side. Donc, manquez pas Cypress Hill qui va être en concert.
Ça va vraiment être bon.
Procurez-vous vos billets sur evenco.ca dès ce vendredi 7 février à partir de 10h. Et actuellement, ma gang de chanceux, j'ai une paire de billets pour vous autres. Like a sumo, slamming that ass, leaving your face in the grass. Identifiez-moi cette chanson-là. J'ai une paire de billets. Vous m'écrivez par texto 418-971-1021. 418-971-1021. Je veux connaître le titre de cette chanson-là. Bonne chance! Qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Qui dit? Joël Monzé, docteur en neurosciences. Brain, Cypress Hill. Transition très smooth.
Le garage à Dan Goron a fait bien. Lapin chaud qui est au chaud à 30 degrés. Es-tu parti au Mexique ou.
République dominicaine de mémoire.
République dominicaine. Ah, oui. peut-être plus chanceuse que nous autres.
Ben moi, je trouve qu'on est bien aussi l'hiver. Elle avait la belle bordée de neige qui est tombée, là. Sais-tu qu'est-ce que tout le monde devrait faire au moins une fois dans leur vie?
Non.
Aller glisser au massif de Charlevoix avec les luges, là.
À moins 30 avec le vent en face, là, les glissades, tu iras tout seul.
Ben voyons donc.
Ben aller au bord à parc.
Fous ta cagoule, OK? Avec des lunettes de ski, la vaseline, graisse-toi en masse dans le visage, pars à l'aventure. Hey, c'est une des choses les plus hilarantes que j'ai faites de ma vie en hiver. Fait que si toi, tu fais pas de ski, tu fais pas de ski, j'ai eu l'hiver.
Fait?
Non, mais tu sais, il y a du monde qui chigne, là.
Faire du snow à Vallée-Jonction avec mes enfants les prochains jours.
Ah oui, oui, OK. Puis la dernière fois que t'en as fait, mettons, j'aimerais avoir l'année.
C'est l'année passée.
Ben arrête donc.
Oui, j'ai fait à Stoneham deux fois, puis j'en ai fait au relais.
Bon, ben on apprend toujours quelque chose de plus sur les gens qu'on côtoie, hein?
Oui, un peu comme toi à 9h58 ce matin qui faisait un service de bar chez Leclerc Communication.
C'est pour mieux vous servir, mes chers.
Oui.
Jamais trop tôt pour apprendre.
C'est rare qu'on voit ça dans les entreprises, hein, un service de bar à 9h58.
Mais bon, mais ici, on le dit tout le temps, c'est dans cette psychiatrique.
Les gens sont joyeux, c'est au moins ça. Au moins ça. Hey, il me reste des cadeaux à vous faire tirer, les amis. J'en ai beaucoup aujourd'hui. Merci beaucoup à la gang de la promo qui pense à nos auditeurs. Vous travaillez fort. Merci de le faire. L'Australian Pink Floyd Show qui va être en concert le dimanche 28 septembre prochain à l'Agora du Port de Québec avec la tournée Wish You Were Here, la 50e bien entendu. Ben, une prestation de l'album Wish You Were Here dans son intégralité et des hits des albums Dark Side of the Moon, Animals, The Wall Metal et Relics et bien plus encore. Les billets sont en vente dès le 7 février, donc dans deux jours à 10h sur le site devenco.ca. J'ai une paire de billets pour vous autres. Je veux vraiment, vraiment, vraiment des passionnés de Pink Floyd. Là.
Parfait.
Voilà. Je veux pas des coureux de concours.
J'adore ça parce que t'es dans ma table. Hier, j'ai demandé Learning to Fly était sur quel album. Je te parle pas de Time. Là.
OK. Nommez-moi trois membres du band Pink Floyd par texto. 418-971-101.
En quelle année, mettons?
418-971-101. Les membres initiaux.
OK.
T'es sais-tu?
Ben, au moins deux sur trois, c'est facile.
OK. 418-971-101.
J'ai baigné sur Pink Floyd dans la maison, dans le piton, à un point où ça vibre, puis que les gens qui marchent à l'extérieur l'entendent sur le trottoir. Là. Se faire réveiller là, sur les albums de Pink Floyd, là, ça drive une adolescence.
C'était chez vous, ça.
Ah,
ah. Ah, ben.
Ça, puis la première de l'album Mammouth de...
Ça va-tu?
Aide-moi. Ça doit être le drink de ce matin. Voyons.
T'en as juste pris un.
Hawaïenne.
J'aurais voulu que tu sois.
C'est qui le band? Les trois accords. Ouais. Ouf, OK. Passe à autre chose.
Non, mais tu peux.
Arrête de mettre en lumière quand je fais.
Quand tu as des questions comme ça par rapport à la musique, là, je peux être ta référence sans aucun problème. D'ailleurs, un de mes chanteurs préférés, Bob Bissonnette, s'en vient sur les ondes de Boulevard. Chantal Maccabée, c'est sa tune à elle. On se revoit tout de suite après. Il n'y en a pas de plus belle, il n'y en a pas de plus belle.